Bien.
Qu'est-ce qu'il y a?
On riait de ça.
Oui, juste après, à côté. Tout le monde a fait la remarque. Ouais, que c'est absolument lamentable.
Non, on a dit c'est moins drôle.
C'est
juste un comparatif.
Non, ça va avec le côté paradoxal.
Vous allez rire, mais je ne suis pas allé.
Ah non. Pour une... Donc si vous pouvez, vous passez le papier avec l'adresse, voilà, c'est bon. On n'a pas votre adresse à Épinay. Bien, alors si vous voulez des textes, il y a encore des textes Bereshit. Bien, alors le sujet... Bereshit. Alors, le sujet que nous avons, disons que j'avais promis, si je peux m'exprimer ainsi, c'est aborder la tfila, aborder la prière. Alors, il y a deux semaines, hein, mais il y a deux semaines, j'avais promis qu'on aborderait ce sujet, et on n'est pas rentré dans le sujet en vérité. Donc, on va essayer de rentrer. Donc, les Chachamim disent qu'il y a des choses Omdim Berumo Shel Olam qui se tiennent dans les hauteurs du monde au Bnei Adam Zalzelim Bahem et que les gens dénigrent. De quoi s'agit-il? C'est la prière. Alors, c'est un peu, étonnant, parce que, disons, a priori, quelqu'un, il s'en fout un petit peu du judaïsme, ce qui est fréquent, hein, c'est pas complètement rare, mais, disons, si cette personne... laisse un tout petit peu ouvert, s'il te plaît. Si cette personne une mouche pique cette personne, elle veut un peu se rapprocher du judaïsme, elle va à la synagogue, et à la synagogue on prie. Bon, est-ce qu'il sait prier? C'est encore une autre histoire, mais bon, il fait acte de présence, on lui passe un patar Eliaou, et il prie. Bon, donc, a priori, c'est le contraire de ce que nos maîtres disent. Les Chachamim disent qu'il y a des choses, Omdim Berumo Shel Olam, qui se tiennent dans les hauteurs du monde et que les gens dénigrent. Donc, a priori, les gens ne dénigrent pas. Même si peut-être c'est la première chose qu'ils ne dénigrent pas. Mais, néanmoins, il me semble qu'on peut constater que... On ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est la prière. On ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas, comme qui dirait, on dit en yiddish, est-ce que c'est fleishik ou est-ce que c'est milchik? Est-ce que c'est halavi, est-ce que c'est basari? On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que la prière, c'est dire... pieusement ce qui est écrit dans le Patar Eliaou? Patar Eliaou, autre chose, hein, au-dessus de la bloc. Est-ce que c'est ça la prière? Sûrement, mais qu'est-ce que c'est précisément? Alors, effectivement, c'est un sujet énorme qui demande étude. C'est un sujet qui demande étude, approfondissement. Alors, on va commencer par, je dirais, la première occurrence de la prière, c'est au début de Bereshit. Pour des personnes, si vous voulez prendre, il y a quelques chumashes là encore. Donc, c'est dans Bereshit Bet, Bereshit Bet, Pasuk Dalet. Elé toldot ha-shamayim va-aretz be-ibaram be-yom asot ha-shem elokim eretz be-shamayim. Voilà les engendrements des cieux de la terre be-ibaram quand ils ont été créés be-yom asot ha-shem elokim eretz be-shamayim, le jour où Dieu a fait la terre et les cieux. Donc vous savez que quand on voit dans Bereshit la création est répétée deux fois. D'abord, il y a les sept jours de la création et ensuite c'est repris ici et d'une autre manière. Pasuk He Vechol Siyar Asade Terem Iye Baaretz Bechol esev asade terem itzmar, kilo imtir Hashem Elokim al haaretz, ve adam ha'in lavod et adama. Bechol siyar asade, tout arbre des champs n'était pas encore sur la terre, et toute herbe du champ n'avait encore pas poussé. Alors j'ai traduit siar par arbre. D'ailleurs, c'est ce que dit Onkelos. Si vous regardez la traduction araméenne d'Onkelos, quand vous voyez un terme que vous ne comprenez pas en hébreu, toujours regardez la traduction en araméen.
C'est plus clair.
C'est plus clair. Alors, c'est vrai que comme ça, quand on dit comme ça, ça paraît absolument invraisemblable. Mais regardez, faites l'expérience, vous allez voir, c'est bon. Vechol siar asade, regardez Onkelos. Vechol ilané rakla. Ilan, c'est un arbre. Vous voyez, donc l'araméen est plus clair là que l'hébreu.
Hein? Parce que sira, c'est...
Siar. C'est quoi siar?
Sikha, c'est une conversation.
Sikha, c'est une conversation.
Mais ça se prend, c'est le même mot.
C'est le même mot. Alors, j'ai amené des bonbons. Si. Comment? Des Mentos Mint. Comment? Alors, vous dites buisson. Mais onkelos traduit arbre. Alors, quel est le lien? Donc Clément nous dit que sikha, c'est une conversation. Quel est le lien? On peut tirer par les cheveux. Oh, bon, c'est pas mal, oui.
Peut-être je vais loin là. Et comme l'arbre donne des fruits, il donne quelque chose quand on parle, la parole fait aussi.
Voilà, cette explication lacanienne là.
C'est la structure de la conversation, ça. Je la débranche.
Enfin, les rares, comme il me dit, c'est extrêmement simple. Ça veut dire que. L'arbre, quand il y a du vent dans l'arbre, on dirait qu'il parle. C'est Sikha, c'est le et le il y a un enseignement qui se trouve dans deux endroits dans le Chas où l'enseignement dit que Rabban Yochanan ben Zakkai savait déchiffrer Sikha de Kalim, les conversations des palmiers. Conversation, quand il y a du vent dans les arbres, ça dit quelque chose. Voilà, c'est ça le sens simple. Hein. Ok. Donc tout arbre des champs n'était encore pas sur la terre, et toute herbe du champ n'avait encore pas poussé. Ki lo imtir Hashem Elokim ala aretz, car Dieu n'a pas fait pleuvoir sur la terre. Ve Adam ayin lavod et Adama, et l'homme n'était encore pas là pour travailler la terre. Alors, c'est un verset, on a du mal à voir la structure de ce verset. Je reprends. Donc, l'arbre des champs n'était pas encore sur la terre. Là, l'herbe du champ n'a encore pas poussé, car Dieu, l'Éternel, n'a pas fait pleuvoir sur la terre, et l'homme n'est pas là pour travailler la terre. Alors, il faut voir le commentaire de Rashi. Alors j'ai fait, vous avez le commentaire de Rashi, mais j'ai fait une photocopie parce que nous allons faire le commentaire de Rashi et le commentaire du Maharal de Prague dessus. Donc je vous passe des photocopies. Donc tout arbre des champs est un. Donc on ne voit pas la structure du verset. Tout arbre des champs n'était encore pas sur la terre. Tout herbe du champ n'a encore pas poussé, car Dieu n'a pas fait pleuvoir sur la terre. Entre parenthèses, très important, s'écrit Hashem Elokim. À partir du verset Dalet et c'est écrit Hashem Elokim, c'est-à-dire les deux noms de Dieu, tandis que au début de Bereshit, il n'y a que le nom Elokim. Il n'y a que le nom Elokim. Là, c'est Hashem Elokim. Rashi dit ici, de manière très importante, que à partir d'un moment, s'écrit le nom Yudke Vavke, parce que Dieu a vu que le monde ne pouvait pas tenir qu'avec Elohim, la Midat Adin, la justice, mais il a associé Midat Arachamim, la dimension de pitié, de Rachamim, de. Je ne sais pas comment on dit en français. Miséricorde. Voilà. Et ici, il y a cette égalité entre Hachem et Elohim. Que Hachem ou Elohim. Voilà. On va voir dans la suite, peut-être que ça va se mettre à jour. En quoi y a-t-il quelque chose de complémentaire entre Hachem et Elohim? Maintenant, la structure du verset est bizarre. Dieu n'a. Il n'y avait encore pas donc des végétaux sur la terre. Car Dieu n'a pas fait pleuvoir. Et l'homme n'est pas là pour travailler la terre. Alors, qu'est-ce que ça fait? Kezako. Regardons le commentaire de Rashi. Rashi va nous expliquer la structure du verset. Donc, Kilo Imtir. Kilo Imtir. Kilo Imtir, car il n'a pas fait pleuvoir. Uma ta'am. L'eau imtir. Et pour quelle raison il n'a pas fait pleuvoir? Le fiche Adam a in la vod et Adama. Donc Rashi nous aide à comprendre la structure du verset. C'est une explication. C'est une dimension de causalité. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas de végétaux. En vérité, c'est Dieu Hachem Elohim. Hachem Elohim. Dieu n'a pas fait pleuvoir. Et l'homme n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'homme n'est pas là? Alors Rashi nous aide à comprendre. Car l'homme n'est pas là. Car l'homme n'est pas là. Car l'homme n'est pas là pour travailler la terre. Comme l'homme n'est encore pas là, donc la terre était absolument aride. La terre est absolument aride. Il crée l'homme, et alors? Reprenons le commentaire de Rashi. Oui.
On dit que l'homme n'est pas là pour travailler la terre. L'homme n'a pas encore été créé, ou l'homme n'a pas encore fauté et doit travailler la terre.
L'homme n'a... Alors, nous sommes bien avant la faute.
Parce que les khatrila, il n'aurait pas dû avoir dû travailler la terre.
Malheureusement, si.
Ah, combien même.
D'accord. Eh oui. C'est bien triste tout ça. Mais on va voir que si, il est Adam la Malioulad, l'homme est né pour travailler. Avant la faute même. C'est... Non mais c'est bien, ta remarque est tout à fait appropriée. L'homme n'est pas là pour travailler la terre. Mais tu as raison, parce qu'on voit qu'a priori c'est du fait de la faute. Et là on est bien avant la faute. Hein. Ok, ça veut dire l'homme n'est encore pas là pour travailler la terre. De quel travail s'agit-il, puisque on dirait que le travail c'est une conséquence de la faute. Oui, de quel travail s'agit-il? Et en quoi? Non, reprenons. Il n'y avait pas de végétaux car Dieu n'a pas fait pleuvoir, car l'homme n'est pas là pour travailler la terre. Et alors? Et alors? Et alors on ne comprend pas. Rashi rajoute ce qui est en blanc. Le fils Adam aïn l'avod et Adama, car l'homme n'est pas là pour travailler la terre. Ven makir betovatam shel geshamim. Donc l'homme n'est pas là pour travailler la terre. L'homme n'était pas là, il n'y avait pas encore un être pour reconnaître la, pour reconnaître le bienfait de la pluie. Ukesheba Adam veyada shem tzorer leolam. Et lorsque l'homme fut venu et qu'il a compris la nécessité qu'il y avait de recevoir la pluie, itzpalel aleem veyardu vetsamchu aylanot vadeshaim. Et lorsque l'homme est venu et a compris la nécessité qu'il y a dans la pluie pour le monde, il a prié pour la pluie est tombée, les arbres et les végétaux se sont déployés et ont poussé. Donc ici, au niveau du scénario, premièrement, l'idée qu'on a, c'est que l'homme a été créé dans un paradis terrestre luxuriant, avec, des arbres, des mangues, des fruits de la passion, un genre de truc tropical comme ça. Des bananiers, des trucs super sympas. Et c'est l'impression qu'on a. Rashi nous dit qu'au niveau du scénario, c'est pas ça du tout. L'homme a été créé dans un monde quasi désertique. Et il était hagard. Il a prié, la pluie est venue, et tout s'est développé. Alors là, c'est devenu paradisiaque. Mais c'est voilà. Bon. Donc ça c'est le scénario présenté par Rashi, mais qui ressort en vérité du verset que rien ne poussait. Alors, il y a le Rashi au début de Bereshit qui dit, mais on voit qu'au début de Bereshit, les végétaux ont poussé, etc. Alors Rashi répond là-bas que non, les végétaux sont allés jusqu'à la limite du sol, mais ne sont pas sortis de la limite du sol. C'est lorsque l'homme est venu et a prié que les végétaux se sont déployés. Voilà. Bien. Alors, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Je reprends. Donc Rashi nous explique. Rashi donc nous explique la structure du verset. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de végétaux, car Dieu n'a pas fait pleuvoir. Pourquoi Dieu n'a pas fait pleuvoir? Parce qu'il n'y avait pas l'homme pour travailler la terre. Et alors, il n'y avait pas l'homme pour se rendre compte de la nécessité absolument vitale de la pluie. L'homme a été créé, s'est rendu compte de la nécessité vitale de la pluie, a prié, et Dieu a donné la pluie, et tout s'est développé. Et tout se développe, des fleurs luxuriantes, des fruits magnifiques, et tout ça, mais ça c'est quand l'homme a commencé à prier. Il a plu, et tout s'est développé, magnifique. Mais avant, rien du tout. Ok?
Comment il pouvait savoir que c'était par la pluie qu'il se serait développé?
Alors, le on ne sait pas ça. Hein. Alors, ça paraît bizarre. Est-ce que c'est pas du tout l'idée qu'on a du paradis terrestre, hein. C'est pas du tout l'idée qu'on a. Alors, et on voit pas très très bien que l'homme n'est pas là. Je reprends Rashi. L'homme n'est pas là pour se rendre compte du bienfait qu'il y a dans la pluie. Regardez la lettre Yud Bet dans l'édition que vous avez. Alors, la lettre Yud Bet. Non, là-dedans, dans la photocopie. Ouais. La lettre Yud Bet va dans le commentaire du Maharal de Prague qui s'appelle le Gourarier. Donc là, nous allons voir trois lignes. C'est pas beaucoup, mais ce commentaire va bouleverser notre existence. Il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Alors, le Maharal, le premier livre que le Maharal de Prague a écrit, c'est un commentaire sur Rashi, sur la Torah. Le Maharal a écrit des très très grands sfarim, très importants, Gvorot Hashem, Netzar Israël, Beragola. Mais ce sont des livres qu'il a écrits, des Rechaim, sont des livres qu'il a écrits après le Gourarier. Le Gourarier, c'est son premier livre sur le commentaire de Rashi sur la Torah. Alors, regarde. Lettre Yudbet. Vem makir betovatam. Il n'y avait pas l'homme pour se rendre compte du bienfait qu'il y a dans la pluie. Klomar, c'est-à-dire. Assur la sot tova. Les ish shel makir batova. Le fikar kolzman shel lo haya adam lo imtir. C'est-à-dire que le monde était quasi, il ressemblait à rien. Le monde ne ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'homme. Et alors, il n'y avait pas l'homme pour se rendre compte du bienfait de la pluie. Et alors, dit le Maharal, il est interdit. J'écris ça au tableau, en lettres de feu. Il est interdit. De donner un bienfait à quelqu'un qui ne se rend pas compte combien c'est un bienfait. Donc, si vous voulez, l'expression qu'on a en français, on pourrait dire le bon Dieu. Ouais, le bon Dieu. Vous connaissez cette expression? Ouais. Des gens, ils disent comme ça, le bon Dieu. Ouais.
J'aime bien.
le bon Dieu. Alors, le ici, Rashi nous dit que Dieu, c'est, sauf votre respect, et sauf son respect surtout, c'est pas une bonne poire. Il donne à quelqu'un qui se rend compte que c'est un bienfait ce qu'il donne. Il donne pas comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est méritant, je ne sais pas. Il ne donne pas, pour être rigoureux, à quelqu'un qui ne se rend, il ne donne pas un bienfait à quelqu'un qui ne se rend pas compte du bienfait. C'est pour ça, tant qu'il n'y avait pas l'homme, pour se rendre compte combien c'est vital la pluie, alors Dieu ne donnait pas, donc son monde, il ressemblait à rien. C'était pas un monde luxuriant. Ça ressemblait à rien. Voilà. Ok. Mais le Maharal, pour expliquer Rashi, dit quelque chose qui est très très étonnant, en vérité, qui est fondé sur une Gemara dans traité Brachot, que nous allons voir. Il dit, il est interdit de donner un bienfait à quelqu'un qui ne se rend pas compte combien c'est un bienfait.
On dirait que c'est une halakha.
Et alors Le où voit-on un tel interdit? Interdit. Il est interdit de donner un bienfait à quelqu'un qui ne se rend pas compte du bienfait. Où il y a un interdit comme ça? Il y a des interdits dans la Torah. Par exemple, de manger des sandwichs pas cachers. Pas des sandwichs, des chewing-gums pas cachers. Ça, c'est interdit pour reprendre notre petite micro-conversation tout à l'heure. Oui, il y a des interdits. On n'a pas le droit de manger du Hametz à Pessah. On n'a pas le droit de manger, que sais-je, de la gélatine porcine. Ça, c'est des interdits. On n'a pas le droit de prêter intérêt. Il y a des interdits. On n'a pas le droit, que sais-je, de travailler Shabbat, de travailler Yom Tov. Il y a des interdits qu'on connaît. Où le Maharal a-t-il inventé un interdit comme ça? Il est interdit de donner un bienfait à quelqu'un qui ne se rend pas compte d'un bienfait. Où on a vu un tel interdit? T'as déjà vu un interdit comme ça?
Non, au contraire, on pourrait imaginer pédagogiquement, tu fais du bien à quelqu'un, et après, il s'en rendra compte ultérieurement, etc. Ça,
voilà.
Ça va le faire progresser.
Développe ça, monsieur.
Non, on pourrait dire au contraire, il faut donner gratuitement. La gratuité donne. Par exemple, si tu me donnais un bonbon à la menthe, voilà. Pas sûr que j'en profite tout de suite. Mais bon, ce sera un début. Pédagogiquement, voilà. Ça me fera progresser sur le chemin de la Torah.
C'est de donner, Dieu vous le rendra. Donner. Ouais, non, ça veut dire. Ouais, c'est.
Mais on dit donc donner, oui, mais avec discernement. Je ne sais pas à quoi je fais référence, mais je l'ai déjà lu quelque part.
Bon, alors, on pourrait dire. On pourrait dire quelque chose comme ça, que lorsque tu donnes, par exemple, tu donnes à un pauvre. Tu dois faire attention qu'avec l'argent que tu lui donnes, il ne va pas se saouler et mourir d'un coma éthylique. Donc, je comprends que de la même manière, tu donnes à une association, regarde est-ce que cette association est gérée de manière équilibrée et que ça ne va pas aller pour les mecs de l'association qui vont aller se bronzer en Tunisie, là, ou en Libye, que sais-je. Enfin... Donc, oui, on pourrait dire, ça c'est positivement, fais attention quand tu fais quelque chose, fais attention, tu donnes à un pauvre, vois est-ce qu'effectivement, regarde à qui tu donnes. Mais dire que c'est interdit, c'est une expression extraordinairement forte et puissante. Il est interdit de donner un bienfait. Alors, l'édition... Là, de laquelle j'ai fait la photocopie, c'était l'édition récente d'un Rav Yehoshua Hartmann qui enseigne actuellement, si je ne m'abuse, à Londres. Et il rapporte la source du Maharal pour expliquer qu'il se trouve la lettre 29, ça se trouve dans le traité Brachot d'Aflamet Gimel. Il rapporte Kol mi shen bo dea asur le rachem alav. La Gemara dit, d'Aflame Gimel dans traité Brachot, Assur les Rachem, Almi Shenbo Dea. Il est interdit.
Pitié.
Il est interdit. Merveilleux judaïsme, il est interdit d'avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas de discernement. Savoir, l'expression que tu dis, Stéphane, et le terme discernement, savoir, mais là, tu le dis au niveau positif, mais là, c'est au niveau négatif. Il est interdit d'avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas de discernement. Ça, c'est le terme hébraïque déa, mais comme c'est un peu compliqué, discernement, pour nous qui avons eu péniblement le brevet des collèges, je vais traduire plus simplement, de quelqu'un qui n'a pas de jugeote. C'est mieux ? Oui, voilà. Il est interdit d'avoir pitié de quelqu'un qui n'a pas de jugeote. C'est dégoûtant, ça.
C'est-à-dire pitié dans quel sens ?
Bah, c'est un peu...
Comment ?
On peut avoir pitié de lui dans le sens...
On ne doit pas aider quelqu'un qui est bête. Dégage.
Il faut faire la gagne.
C'est tout ça. Fin du cours. Vous êtes le maillon faible.
C'est un peu paradoxal.
Quelqu'un qui est bête.
Mais c'est un peu paradoxal.
Comment ?
C'est en général des...
Arrête.
Non, mais... Donc on doit dire qu'il y a des agrégés de philo.
N'aggrave pas ton cas.
Comment on peut se permettre de juger que l'autre est bête ?
Je sais pas, moi, j'en sais rien.
Mais on n'en sait rien en plus.
Comment ?
Le mec qui fait la manche,
non,
on sait rien.
Non, mais jugeote. Pourquoi j'ai dit jugeote ? J'ai pas dit intelligent. J'ai pas dit intelligent. Hein. Parce que tu peux avoir des gens qui sont bac plus je sais pas quoi, mais qui sont bêtes comme leurs pieds. C'est pas. D'ailleurs.
Ça veut dire quoi avoir ?
D'ailleurs, hein, n'insistons pas. Comment ?
J'arrive peut-être en retard.
Non, jamais.
Avoir pitié de quelqu'un, jamais en retard.
Non, on n'aide pas. Il ne faut pas aider quelqu'un qui est bête.
Non, mais c'est alors, t'es bête ou qu'il n'y a pas de
il est... Non, c'est pas qu'il ne faut pas. C'est interdit.
Oui, mais à ce moment-là,
j'ai
interdit.
C'est interdit.
Non, regardez. Non, vraiment, vous voyez. C'est... Oui, regardez. Là. Je pense une bonne partie d'entre nous, on est dans la préparation de Pessah. Moi, je suis arrivé lessivé. Vraiment, bon, je me suis dit, allez, je vais faire un cours, machin. Bon, chacun son boulot, je vais faire un cours. Mais les paroles des Chachamim sont tellement incroyables que ça me met en forme, moi. Ça me remet en forme. J'étais pas en forme, mais là, ça me remet en forme. Quoi. Mais c'est ça ce qui est dit. C'est pas qu'il faut pas. C'est interdit d'aider quelqu'un de bête. Mais bête, ça veut pas dire QI. Comprenons bien. DA, c'est pas une notion de QI. T'as des gens qui ont du QI qui sont bêtes, des gens qui sont simples et qui peuvent ne pas être bêtes. Mais où peut-on dire interdit ? Il est il y a un interdit comme ça. Où dans la Torah trouvons-nous un tel interdit ? Oui, non, c'est bien. Ce que vous dites, c'est important. Première chose qu'on demande à Dieu, parce que justement notre étude, c'est introduction à la prière. Première étape d'introduction sur la prière. Dans le Shmoneh Esrei, dans les 18 bénédictions que nous faisons, la Amida, c'est 19 bénédictions, mais on va dire Shmoneh Esrei, ça s'appelle Shmoneh Esrei. Il y a les trois premières bénédictions, ce sont des louanges à Dieu. Et ensuite, les 12 bénédictions du milieu, qui sont 13 en vérité, c'est ça les véritables demandes. Première demande qu'on fait à Dieu, Ronen. Adaat, s'il te plaît, Dieu, fais qu'on soit un peu moins bête. C'est ça la première chose qu'on demande. Please, s'il te plaît, fais qu'on soit un peu moins bête. En général, les gens ils demandent. Ouais. Première chose qu'on va demander, Ouais. La bonne santé. Un peu de fric. Ouais. Et puis, cinquantième chose, qu'on soit un peu moins bête. Non, les sages, quand ils ont structuré la prière, première chose qu'on demande, c'est qu'on soit un peu moins bête. C'est la première chose. René d'Adam, donne-nous de la jugeote. Je traduis exprès. Jugeote, c'est un thé ou deux thés? Deux thés ou un thé? Comment, monsieur le professeur? Tu mettrais
deux.
Oui, bon, ok. Donne-nous de la jugeote et le sens de l'orthographe.
Oui.
Comment?
Il y a.
Il y a un petit E là.
Fluet.
Ok. Alors, essayons.